Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La France dans l'incertitude après la chute du gouvernement Barnier. La motion de censure déposée par la gauche a été adoptée hier soir à la majorité absolue. Le Premier ministre s'est rendu ce matin à l'Élysée pour présenter sa démission. Radio Orient était à l'Assemblée nationale lors du vote de la censure du gouvernement. Plusieurs invités dans votre édition, dont le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, le député de la droite républicaine, Philippe Gosselin, et le député RN, Thomas Ménager. L'offensive des rebelles emmenée par des djihadistes en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, fait état de violents affrontements sur les axes de la ville de Hama. L'ONU appelle le gouvernement taliban en Afghanistan à revoir son projet d'exclusion des femmes, des écoles d'infirmières et de sages-femmes. Paris vient également de réagir. Ce projet suscite des inquiétudes pour les Afghanes déjà bannis des universités. La présidente de l'ONG afghane de France, Nouri Chella, sera l'une de nos invitées. Au lendemain de la censure du gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier a rencontré ce matin le président de la République pour lui remettre sa démission. La motion de censure du nouveau Front populaire a été votée par 331 députés, soit plus que la majorité absolue. Réaction du président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne. Il évoque notamment la dignité de Michel Barnier. André Chassaigne.
J'ai écouté le Premier ministre, c'est ce que je tiens... quand même à dire, c'est qu'il a fait une intervention avec une grande dignité, même si je ne partage pas ses orientations politiques, même si je sais qu'il ne pouvait qu'échouer, dans la mesure où on a un gouvernement qui n'était pas le fruit du résultat des élections législatives, c'était un pari impossible. Il a voulu servir la France, il a essayé, il n'y est pas parvenu, je pense qu'il s'en est très bien expliqué ce soir. C'était le premier mot que je voulais formuler. Prendre en compte la dignité de son intervention. On est dans une situation absolument inédite. On a toujours, jusqu'à une période récente, jusqu'en 2022, on a toujours eu des majorités. Des majorités. Et ce que l'on vit aujourd'hui avec le vote d'une motion de censure, c'est quelque chose de complètement imprévisible en définitive. Ou du moins qui était prévisible depuis la nomination du gouvernement Barnier. Là, c'était sur les rails, mais c'est vrai que c'est, ça, on peut dire, un ébranlement considérable de notre démocratie. Donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est après avoir voté cette motion de censure, être capable de ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, être capable de créer un mouvement qui puisse être majoritaire.
Vous souhaitez un Premier ministre du NFP, seriez-vous prêt à tendre la main au bloc central ?
Je ne me place pas... Je veux faire une différence entre un gouvernement et ce que fait le gouvernement après. Donc un gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, il va d'abord se construire sur, je vais employer le mot, de socle commun au niveau de la programmatique. C'est d'abord ça. Qui est prêt à s'associer à un gouvernement de gauche qui a de grandes orientations telles que revenir sur la retraite, telles qu'indexer les salaires et les pensions sur l'inflation, telles qu'aller chercher l'argent là où il est. Par exemple, les 147 milliardaires pour lesquels on avait proposé une taxe sur le patrimoine de 2%. C'est un exemple que je donne parmi d'autres. Ça, c'est le socle programmatique qui peut être le socle d'un gouvernement de gauche. Ensuite, ça se construit dans l'hémicycle avec les autres groupes par une discussion de façon à prendre des décisions et faire voter des lois qui seraient des lois qui réunissent une majorité, c'est la moindre des choses.
André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il appartient à la famille politique de Michel Barnier. Le député de la droite républicaine, Philippe Gosselin, fait part de son inquiétude après la censure du gouvernement.
C'est un sentiment de grand gâchis. Je crois que nous avions un grand serviteur de la République qui était un homme d'État, qui était sans esbrouffe, qui avait prouvé ses capacités dans de nombreux postes. Et je pense que vraiment, comme Premier ministre, il était parfaitement à sa place. Maintenant, on a une coalition quand même des contraires, hein, une coalition des populismes de droite, de gauche, qui s'unissent dans une alliance très improbable, qui d'ailleurs ne peut avoir aucune suite, puisqu'il ne représente absolument pas une alternative. Et donc, ce soir, on a quand même un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Hein. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir de budget, ce qui est déjà un vrai sujet, mais c'est que il y a une incertitude économique, une incertitude politique. C'est aussi la voix de la France qui, à l'étranger, sera évidemment très affaiblie. Elle l'était déjà, mais ça va s'amplifier. C'est la confiance dans l'avenir. Hein. Des difficultés pour constituer un nouveau gouvernement. Avec qui, comment, sur quel programme? Il n'y a aucune réponse à ce stade à ces questions nombreuses. Vous savez, c'est un peu comme la pelote de laine sur laquelle on tire et puis qui vient. Là, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Donc oui, beaucoup d'incertitudes, et je crois que le pays n'avait pas besoin de ça. Dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt supérieur de la France, je ne comprends pas cette attitude des uns et des autres qui nous conduit à une forme de chaos, même si ce n'est peut-être pas le chaos pour certains. On n'est pas dans une pièce de théâtre ce soir, c'est du sérieux.
Et justement, conséquences directes et concrètes pour les Français?
Sont des conséquences économiques, sont des conséquences en termes de sécurité, sont des conséquences sur le quotidien de nos concitoyens. À ce stade, puisqu'il n'y a pas de loi de finances, ce sont par exemple les barèmes de l'impôt sur le revenu qui continueront à s'appliquer en 2025. Ça veut dire que pas loin de 18 millions de nos concitoyens vont payer de toute façon plus d'impôts, puisqu'il n'y aura pas la réduction liée à l'inflation qui revient dans chaque loi de finances. On a entre 380 000 et 400 000 de nos concitoyens, de foyers qui vont payer l'impôt alors qu'ils ne le payaient pas. Mais ça sera par exemple aussi des aides aux agriculteurs qui ne seront pas versées. Pour le logement, ce sont les PTZ, les prêts à taux zéro qui ne pourront pas être versés ou qui seront très retardés. Ce sont les enseignants qui ne pourront pas être augmentés. Ce sont aussi des investissements qui ne pourront se faire parce que ça ne marche pas les 12e sur les investissements. Donc on va différer des investissements sur les prisons, sur des bâtiments publics. On ne pourra pas non plus recruter de nouveaux gendarmes, de nouveaux policiers. Alors peut-être qu'en cours d'année, on arrivera par une loi spéciale à revenir sur un certain nombre de choses. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là, on fait de la politique fiction parce que si on a une loi spéciale, encore faut-il avoir des gens, des parlementaires pour la voter. Et à ce stade, ce soir, c'est plutôt l'abîme qu'autre chose. Donc, un vrai sujet.
Le député de la droite républicaine, Philippe Gosselin. Je vous propose à présent d'écouter l'ex-ministre des Outre-mer, le député MoDem, Philippe Vigier. Philippe Vigier qui déplore, après cette censure du gouvernement, une fragilisation de la démocratie.
La France, elle n'est pas seule, elle n'est pas sur une île, elle est regardée de partout. Une grande démocratie qui s'affiche avec un gouvernement qui tombe au bout de 3 mois. Donc fragilisation de la démocratie, pas de budget, des conséquences pour les habitants au quotidien, parce que les entreprises, les agriculteurs, ils vont avec des décalages. Ça a même été dit par les orateurs de gauche. Ah ben, il y aura un budget dans un mois ou dans 2 mois. Ben, vous allez expliquer que dans un mois et dans 2 mois, on va attendre à l'instant-là. Donc les cartes seront tombées. Donc maintenant, il faut trouver, reconstituer une base solide, où chacun préfère une fois de plus son pays à ses liens partisans.
Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les personnes qui vous écoutent en ce moment?
Ce qui va changer, c'est simple, quand il n'y a pas de budget, il y a 400 000 personnes qui ne payaient pas d'impôts et qui vont payer. Voilà. Bienvenue. Ils peuvent faire une petite lettre de remerciement à Mme Le Pen, une petite lettre de remerciement à M. Mélenchon et ses amis, parce que quand même, c'est une alliance absolument extraordinaire. Des gens qui s'insultent, qui votent ensemble. Formidable. Il faut lire les textes, il faut que les Français fassent cet effort de lire les quelques lignes des motions de censure. Ils se détestent. Ils se haïssent. Ils sont soi-disant d'accord sur rien. Mais en fait, ils se mettent d'accord sur une seule chose, sur le dos de cette France que nous essayons d'incarner.
Mais pas de petite lettre de remerciement pour le président de la République?
Le président de la République, il a dissous, on s'en souvient. Je fais partie de ceux qui contestaient, ont condamné cette dissolution. Mais ça fait 6 mois là maintenant, donc on n'en est plus là. Là, ils n'arrêtaient pas de critiquer le président parce qu'il avait des sous, donc là on pouvait se retrouver, mais là, je suis désolé, c'est eux qui mettent le souk là. C'est eux qui mettent la France à genoux. C'est eux qui créent les conditions pour qu'on n'avance pas. Alors que, pardonnez-moi, Mme Le Pen nous explique qu'uniquement pour le sujet de l'indexation des retraites, alors qu'on avait trouvé un compromis qui n'était pas le nôtre, moi j'ai fait des efforts, c'est pas mon compromis. J'ai accepté un compromis. Personne n'est majoritaire. Quand vous n'êtes pas majoritaire, vous travaillez avec les autres. Ou alors, vous êtes une fois plus sur une île. Ça n'existe pas.
Et quelles sont les possibilités aujourd'hui du président de la République?
Il y a plusieurs personnalités, une personnalité comme François Bayrou, dont on sait qu'il est au centre de la vie politique française depuis tant d'années, respecté par les uns et par les autres. D'abord, quelqu'un qui soit respecté, quelqu'un qui est une colonne vertébrale, quelqu'un qui parle à tout le monde et qui dise il y a quelques chantiers importants sur les dossiers du quotidien, que ce soit l'emploi, l'immigration, la sécurité, la justice, l'école. Et puis que sur les institutions, on bouge. Eh bien, qu'on a un bout de souffle d'un système où celui qui est en alliance, eh bien, il est coincé par les personnes avec qui il est en alliance. Donc, il faut un scrutin proportionnel, voilà.
Le député MoDem Philippe Vigier, ministre des Outre-mer. À l'extrême droite, les députés se réjouissent de la chute du gouvernement Barnier, à l'image du député Rassemblement National, Thomas Ménager.
Même si nous avons acté que nous étions les plus nombreux en voix aujourd'hui, nous n'avions pas une majorité qui nous permettait de mettre en place le programme politique qui est celui du Rassemblement National. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand nous avons échangé avec M. Barnier, que nous avons fixé les lignes rouges, il ne s'agissait pas du programme du Rassemblement National stricto sensu, il s'agissait de 10% seulement, donc des demandes très raisonnables, issues de notre contre-budget. Et donc c'est la raison pour laquelle nous étions dans une vision de co-construction et de compromis, et ce que n'a pas voulu faire M. Barnier, qui s'est entêté à être à la main des macronistes, à la main d'Emmanuel Macron, et à vouloir être dans la continuité de cette année, alors que les Français, lors des élections législatives, avaient envoyé un signal totalement inverse, une rupture après 7 ans en matière économique qui a fait du mal à ceux qui travaillent et à ceux qui payent chaque jour plus d'impôts, plus de taxes, et qui attendait qu'il y ait une vraie rupture.
Et suite à cette censure du gouvernement Barnier, le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera ce soir à 20h devant les Français. Cette crise politique pourrait se doubler d'un front social. Cette journée est marquée par de multiples grèves, des enseignants aux contrôleurs aériens, un mouvement de grève dans la fonction publique, avec des dizaines de rassemblements prévus dans tout le pays. L'offensive des rebelles emmenée par des djihadistes en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de violents affrontements sur les axes de la ville de Hama. Des violences entre les forces du régime et les rebelles fondamentalistes emmenés par Hayat Tahrir al-Sham et d'autres factions. Ils sont parvenus hier soir à encercler quasi totalement la quatrième ville de Syrie après une offensive depuis le nord. Offensive qui leur avait permis de prendre la ville d'Alep. Les combats et les bombardements ont déjà fait plus de 704 morts, dont 110 civils. Le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le Conseil des ministres libanais se réunira samedi prochain à Tyr, au Liban Sud. Ce cessez-le-feu a déjà été violé à plusieurs reprises par Israël et le Hezbollah. Israël a menacé hier de ne plus faire de distinction entre le Hezbollah et l'État libanais si la guerre reprenait. Le mécanisme de supervision du cessez-le-feu est présidé par les États-Unis. La représentation de la France au sein de ce mécanisme de supervision est assuré par le général de brigade Guillaume Ponchin. Une annonce du Quai d'Orsay. Paris souligne que cet accord de cessez-le-feu est le fruit d'efforts diplomatiques entrepris depuis de longs mois avec les États-Unis. La France appelle l'ensemble des parties à le respecter dans la durée et à mettre fin à toute action qui le menace. L'ONU appelle le gouvernement taliban en Afghanistan à revoir son projet d'exclusion des femmes, des écoles d'infirmières et de sages-femmes, un projet qui suscite des inquiétudes pour les Afghanes déjà bannis des universités. La présidente de l'ONG afghane de France, Nouri Chella.
Ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que depuis août 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à hier on va dire, dernière loi en question qui est sortie, désormais les facultés privées, on va dire, avaient tout de même l'autorisation d'éduquer les étudiantes à devenir sages-femmes ou infirmières. Même depuis hier, même ça c'est interdit à ces femmes. Donc dans le futur, il n'y aura plus du tout d'infirmières, plus du tout sages-femmes. Donc toutes les femmes vont devoir accoucher toutes seules. Donc toutes celles qui ont, on va dire, une grossesse normale, on va dire, tant mieux pour elles, mais toutes celles qui ont une grossesse difficile, qui vont avoir des accouchements horribles, je ne sais pas qui va les aider à accoucher. Donc ces messieurs, puisqu'il n'y a qu'eux qui ont l'autorisation pour l'instant d'étudier. Donc en fait, ils disent tout et leur contraire. Interdire aux femmes d'étudier, de devenir médecin, sage-femme et infirmière, pour au final, qui va s'occuper de leur dame à elles, de leur dame à eux, quand elles vont accoucher et qui aura besoin d'une césarienne, ce sera un monsieur qui va venir faire la césarienne. C'est le monsieur qui va venir tirer l'enfant. Donc c'est un peu contradictoire, là c'est vraiment pas religieux. Et 3 ans où on arrive à un stade où il n'y a plus de droit, en fait, ils cherchent encore et toujours à comment rabaisser parce qu'il faut dire au niveau des droits, les femmes n'ont plus aucun droit. Mais là, c'est rabaissé. C'est plus une question de droit, c'est une question juste de rabaissement du statut de la femme.
Parce que les femmes peuvent-elles être soignées par des hommes?
Non.
Ou est-ce que c'est interdit?
C'est interdit. Ah, c'est totalement interdit, mais elles peuvent quand même aller voir le médecin, accompagné de leur maram, et le médecin, de loin, l'auscute avec ses yeux, il voit ce que, bah, selon lui, on va dire, c'est un marabout, il doit savoir ce qu'elle a, donc il va lui écrire sa petite ordonnance. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'elle a, la dame en question en face. La jeune fille en question, il ne va pas savoir ce qu'elle a. Et puis, vu que le patriarcat est à son apogée, là, actuellement, en Afghanistan, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui, finalement, ça les arrange, malheureusement. Et bien, beaucoup de femmes ne font plus se faire soigner. Et puis, de toute façon, il n'y a plus les moyens d'aller se faire soigner en Afghanistan, c'est simple.
La présidente de l'ONG Afghane de France, Nourrie Sheila. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h30 pour le journal en langue française. Et vous pourrez entendre le témoignage de cette femme native d'Afghanistan, la présidente de l'ONG Afghane de France, qui reviendra sur ce projet des talibans. Les talibans qui appellent à l'ONU, qui appellent à revoir le projet du gouvernement taliban d'exclusion des femmes, des écoles d'infirmières et des sages-femmes. Et le Quai d'Orsay a d'ailleurs réagi ce matin suite à ce projet des talibans. La France condamne dans les termes les plus fermes l'interdiction faite par les talibans aux femmes afghanes d'accéder aux établissements d'enseignement médical. Intolérable et injustifiable, cette décision s'ajoute aux innombrables violations des droits des femmes et des filles dont les talibans se rendent coupables depuis leur prise de pouvoir par la force il y a plus de 3 ans en Afghanistan. Voilà les mots du ministère français des Affaires étrangères. Paris affirme que la France continuera de condamner les violations graves et systématiques des droits de l'homme par les talibans qui visent à effacer la moitié de la population afghane. Et Paris souligne qu'aucun retour à la normale n'est envisageable sans un arrêt total et immédiat de ces violations, comme cela a été clairement exigé par la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2021. Voici les propos de la France. Il est 12h16. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.